Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
L'atelier sur l'économie numérique ouvert par le président de la République vient de s'achever. Quelle évaluation faites-vous après 3 jours de travaux à Bangui?
Ça a été un atelier opportun. Cet atelier a fait que d'autres centrafricains sont venus enrichir les études qui nous permettent maintenant de contextualiser le plan national de stratégie sur la numérisation du pays. Donc j'ai un bilan très positif de cet atelier qui s'est déroulé ici chez nous.
En parlant de ce plan national de stratégie qui est mis en place, il est ressorti lors des échanges que les objectifs fixés doivent être atteints d'ici 2028. Que prévoit-il?
Nous avons ce plan stratégique d'ici à l'an 2028. C'est de changer la manière de fonctionner de l'État, de mettre en place un système qui va permettre de numériser le pays, de faire en telle sorte que tous les départements ministériels aient la possibilité de se digitaliser et d'avoir l'outil informatique pour faire le travail.
Mais comment allez-vous moderniser cette administration centrafricaine, comme vous le dites, puisque au XXIe siècle, l'accès à l'Internet reste toujours très faible dans le pays?
Cela a déjà commencé au niveau de l'université avec la construction d'un centre de développement digital. Le chef d'État a posé la pierre, les travaux vont durer 9 mois. Donc d'ici avril, ce bâtiment sera opérationnel et nous aurons également à travailler avec les collectivités locales qui vont être formées pour que les documents des collectivités soient numérisés, leur budget, les actes de naissance et tout soient numérisés. Donc c'est un processus qui est engagé jusqu'à 2028. Par exemple, au niveau de la communication, il y aura ce qu'on appelle le contenu qui va être fait. Si on veut aller suivre la télévision centrafricaine, il y aura le contenu qui sera conceptionné par les professionnels de médias. Quand au niveau des mines, il y aura donc des zones qui seront certifiées, qui seront mises sur le e-gouvernement. Il y aura également au niveau de l'école, certaines écoles, on mettra comme des écoles pilotes déjà pour permettre que l'enseignement puisse se donner à distance. Également au niveau de l'agriculture, où on peut organiser nos agriculteurs dans des centres d'intérêt commerce.
Comment pensez-vous que le numérique puisse contribuer à l'économie centrafricaine?
Il y a la monnaie qui est déjà en virtuel. L'intérêt de l'économie centrafricaine, c'est que aujourd'hui, quand vous arrivez n'importe où, on vous donne une quittance. Vous n'êtes pas sûr de la véracité de cette quittance. Ça veut dire que forcément, ça ne va pas au trésor public. Alors, avec ce que je vous dis, c'est des quittanciers qui seront certifiés, avec des puces de sécurité qui permettront une traçabilité. Ça veut dire que l'agent qui est délocalisé ne peut plus aller faire un autre registre au niveau des impôts, au niveau du trésor, au niveau de l'éducation.
En vous entendant parler, le centrafricain lambda se croirait rêver. Pensez-vous vraiment réaliser tout cela d'ici 2028?
D'ici la fin de l'année, déjà, vous verrez un grand changement. L'entrée en exploitation de la fibre. Et à partir de ce moment-là, l'État va initier ces applications dont je suis en train de vous parler.
Monsieur le ministre, le projet fibre optique sur lequel repose cette économie numérique est lancé depuis 2019 à Berberati par le président Touadéra et est censé prendre fin en 2021. Qu'est-ce qui a causé ce retard et à quand la mise en service?
Comme vous le savez, dès 2020 déjà, il y avait cette pandémie de Covid-19 qui a secoué tous les pays du monde et notre pays n'a pas été épargné. Et donc, ceux qui ont gagné le marché sont de la Corée du Sud et tous les équipements qu'ils ont commandés devaient venir par bateau. Et à partir du moment où il y avait donc la première arrivée de cette maladie, tout était bloqué, les ports étaient bloqués. Ensuite, le projet avait repris normalement en 2020, est arrivée donc cette guerre, puisqu'il y avait une tentative de prise de pouvoir par la force le 13 janvier 2021. Et ce qui a donc immobilisé le projet encore une fois de plus sur une grande partie du tronçon, puisque le projet vient de Berberati à Bangui, et vous voyez que c'était la zone de théâtre, c'était sur ce tronçon. Et donc, voilà à peu près les causes qui ont fait que ce projet ait connu un retard, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres et que nous allons donc procéder à la mise en exploitation de ce projet en décembre 2022.
La Banque africaine de développement, bailleur de ce projet, avait suspendu son financement à cause non seulement du recrutement de mineurs, mais aussi de soupçons de malversation financière. Que répondez-vous à ceux qui parlent d'une mauvaise gestion?
La rumeur, c'est un danger. Moi, en tant que responsable de ce pays, je ne vais pas me baser sur des rumeurs pour répondre à des gens qui parlent. Bon, moi, je suis responsable, donc je vous dirais que d'abord, le système de financement des partenaires internationaux est tel que personne ne peut aller prendre l'argent comme ça, puisque l'argent n'est pas ici, l'argent c'est eux qui gèrent. Voilà à peu près le processus de décaissement. Donc l'État même n'a pas un franc de contrepartie. Si l'État avait un franc de contrepartie, on aurait dit bon, la partie de l'État est laissée chez nous ici, donc quelqu'un peut avoir accès pour faire parler des tournements. Mais en ce qui concerne le recrutement des mineurs, oui, vous savez, ce projet, on a pris toutes les garanties. On recrute des gens sur des critères démocratiques. Ce qui s'est passé, c'est que comme les Centrafricains, beaucoup n'aiment pas leur pays, ils ont filmé sur un réseau des jeunes qui étaient dans les tranchées de réseau pour envoyer aux bailleurs pour dire que le projet CAP utilise des mineurs ici en République Centrafricaine pour faire ce travail.
C'est faux?
C'est faux, évidemment c'était faux. Mais puisque la banque a envoyé une équipe ici pour faire l'enquête.
Mais que faisaient ces jeunes sur le réseau?
Non, mais vous savez, il y a la curiosité ici chez nous. Il y a une question culture. Quand moi, père d'enfant, je vais faire un travail, si ça se passe devant chez moi, mes enfants peuvent entrer là-dedans. Mais ils n'ont aucune relation avec l'entreprise. Aucune. C'est moi qui signe le contrat. Il y a des questions culturelles également qu'il faut analyser. Et quand la banque a fait son enquête, ils ont vérifié. Ils se sont rendus compte que tous ceux qui ont travaillé, il n'y a pas de mineurs dedans. C'est comme ça qu'ils sont partis lever ce blocage. Tout est rentré en ordre parce que c'était des rumeurs.
Aujourd'hui, on parle du numérique. Cependant, la désinformation monte en puissance dans le pays. Avez-vous mis en œuvre un plan pour contrer ou contrôler ces mots?
Le numérique est une chose, la désinformation en est une autre. C'est le comportement. Moi, je pense que le numérique vient également pour aider à couper court à ces rumeurs. Dans ce sens où, moi, en tant que ministre, j'ai l'obligation de mettre la télévision, par exemple, un support pour que la télévision soit étendue sur le territoire centrafricain, que la radio fonctionne sur toute l'étendue du territoire centrafricain pour permettre à ce que ces rumeurs-là soient coupées. Que ce que Ndegluka dit ici à Bangui, que ça soit la même chose qui soit perçue à Mdafok, à Bukaranga, à Kui, à Mala, à Buka et partout. Parce que c'est un problème de comportement et c'est un problème de comportement, on ne va pas le régler en un laps de temps. Il faut étendre dans le temps un processus qui va prendre son temps, mais ça va porter.
Autre aspect, c'est la cybersécurité et la protection des données. Comment cela est pris en compte par cette économie numérique?
Aujourd'hui, au niveau de mon département, nous sommes en train d'initier des projets de loi sur la cybersécurité, la cybercriminalité et la protection des données personnelles pour accompagner l'ensemble de ces réseaux que nous mettons à disposition du grand public pour son exploitation. Il faut que nous ayons cette panoplie de textes pour sécuriser, pour légiférer, les réglementer. Nous sommes en train de travailler sur ça et bientôt on va envoyer ce projet de texte à la Commission nationale des textes officiels et après ça, ça va. Donc nous nous préparons pour l'ouverture de la session parlementaire octobre 2022 pour que ce texte puisse aller là-bas, pour qu'on puisse voter et qu'on ait des textes d'application pour que quelqu'un qui s'expose soit poursuivi et qui réponde à ses actes. Je pense qu'ainsi, la vie sera donc réglementée et que les gens vont avoir peur de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi au nom des autres sur les réseaux sociaux.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.